16h sur Landrock.
Salut à tous, c'est Sweet Home Chicago, numéro 1113, en ce samedi 3 juillet 2021. Voilà, c'est la dernière de la saison. Et puis, ben, on se retrouvera tout simplement dans 9 semaines. Il y aura 8 semaines de rediffusion. Et puis ensuite, ce sera le 4 septembre, on se retrouvera pour le direct. Aujourd'hui, une émission un petit peu particulière, avec une partie du matériel, on va dire au chômage ou en grève. Mais on va se débrouiller quand même avec des disques. Tout est possible quand même, quand on a une vraie table de mixage, avec des vrais disques 12 cm CD. Et c'est ce qui va nous servir au moins pour cette première heure. Voilà, petit changement bien sûr dans la playlist avec l'interview de Alicia Fiorucci et Tony Marlowe. Ce sera en première heure, ce sera allé dans un petit quart d'heure. Et puis en attendant, on va revenir sur le disque du mois, coup de cœur du mois de juin qui va nous servir aussi pour aujourd'hui, puisqu'il n'y aura pas d'émission de l'été, vous l'avez compris. C'est toujours l'album des Black Keys qui s'appelle Delta Cream. Voici les Black Keys. Ça s'appelle Walk With Me. L'album Delta Cream des Black Keys, c'est avec ce titre qu'on démarre ce 1113e Sweet Home Chicago, une émission un petit peu particulière avec les conditions du direct. Mais bon, on va quand même écouter des disques, il n'y a pas de souci. Puis on aura l'interview tout à l'heure de Tony Marlowe et Alessia Fiorucci. Il n'y aura pas, par contre, d'interaction sur Facebook, désolé. C'est pas bien grave, ça ne nous empêche pas d'écouter de la bonne musique. Et puis parfois d'assister à des concerts ou même d'y participer. Encore merci à Laurent pour le prêt de la guitare. Et puis à tous les Wish Doctors pour le petit bœuf qu'on a pu partager ensemble à Langrune, sur mer. Voilà, il y avait à la fête de l'école de Langrune un concert des Wish Doctors qui a duré comme d'habitude, un temps infini, parce que les Wish Doctors ne sont pas seulement talentueux, ils sont également très généreux sur scène. Voilà, ça s'est terminé en rock'n'roll, et pas du tout dans l'ambiance du titre qu'on va entendre tout de suite, qui s'appelle Omaha, un morceau qu'ils ont joué hier soir, qui joue quasiment à chaque fois, et chanté par Laurent Choubrac. Omaha, Jean-Christophe Panucco, Va savoir où ce chemin nous mène, c'est leur album de 2019.
Monte doucement à l'assaut l'estomac.
Voilà un morceau en dédicace à tous les CM2 de l'école de Villers-Bocage avec la belle voix de Laurent Choubrac. C'était Omaha, extrait de Va savoir où ce chemin nous mène, album qu'il partage avec Jean-Christophe Panico. On poursuit avec une nouveauté Frenchie. Ce sera son dernier album, non pas qu'il nous ait quitté totalement, mais artistiquement en tout cas. Je veux parler de Monsieur Bilderem avec ce nouvel horizon. Il avait sorti un volume 1 il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, 3 ans déjà, et le volume 2 paraît ces jours-ci, et ce sera son dernier disque parce que Bilderem, à 74 ans, arrête sa carrière, que ce soit discographique ou scénographique. Voici Bilderem avec Adieu, vieux monde.
À l'écart des grandes tours de Babylone, là où le loup habite en liberté, avec l'agneau et le petit de l'homme, où tout se donne et rien ne peut s'acheter. S'élève une ville toujours nouvelle, qui fait la loi de tous ses habitants, où les murs s'ouvrent sur le bleu du ciel, avec des portes sans battants. Une ville ouverte en pleine nature, en pleine nature humaine, où l'on passe par en plus dans nos veines. Adieu vieux monde, à stratagème, à tout le part, c'est le moment qu'enfin les uns les autres s'aiment, sinon périront leurs enfants. Jardin sans clôture, sera chauffé par le vent, un vent qui soigne toutes les blessures et sèche les larmes indéfiniment. Chacun y jouera sa plus belle musique, on deviendra tous musiciens, compositeurs, poètes et danseurs cosmiques, dans la clarté d'une aube sans fin, sur les bords d'un fleuve aux eaux claires, où viendront boire nos à ton le pas, c'est le moment qu'enfin les uns les autres s'aiment, sinon périront leurs enfants. Qu'enfin les uns les autres s'aiment. We'll be right back.
Monsieur Bilderem, ici à travers son dernier album hors date, et puis son dernier album tout court, vous l'avez compris, ça s'appelle Nouvel Horizon, volume 2. Voilà, on poursuit avec un retour sur le disque du mois, puis ensuite on découvrira un premier extrait de First Ride, qui est en fait l'album de Marlowe Rider, le nouveau projet de Tony Marlowe. On en parlera avec Tony et Alicia F. tout à l'heure. Voici The Black Keys. En attendant, retour de cet album. The Black Keys avec toujours Delta Cream, ça s'appelle Come On and Go With Me.
Come
reviendra sur cet album Delta Cream des Black Keys en deuxième heure de Sweet Home Chicago. En attendant, on va découvrir un premier extrait de First Ride, l'album de Marlo Ryder. C'est du rock'n'roll, là, si.
Des leaders puis des gourous. Qui voudraient bien nous recruter et nous dresser comme des toutous. Personne ne m'a mis à genoux. Faut pas faire les choses à moitié. Moi je ne regrette rien du tout.
Debout, c'était un extrait de cet album qui s'appelle Marlo Ryder et je suis au téléphone avec Alicia Fiorucci et Tony Marlo. Bonjour.
Bonjour Marc.
Ah, ça va Tony ?
Ça va bien et toi ?
Ah super, super. Depuis le temps, bah, effectivement, ça fait déjà un bon petit moment qu'on n'avait pas eu des nouvelles l'un de l'autre. Et puis là, Tony Marlo revient, j'ai envie de dire, sous un autre déguisement, avec un autre costume, mais toujours très très rock'n'roll. C'est ta vie le rock'n'roll, Tony ?
Ah, c'est ma vie depuis plus de 40 ans, en effet.
Ouais.
Voilà. Ceci dit, cet album-là tire plus vers le blues quand même que le rock'n'roll pur.
Alors, il tire plus vers le blues grâce, j'ai envie de dire, à l'influence notamment d'un certain Jimi Hendrix, non ?
Oui, par exemple.
Un petit peu. Purple Haze, la couleur violette de la pochette, n'est peut-être pas étrangère à cette influence. Est-ce qu'on peut, en quelques mots, peut-être pour démarrer cette interview, Tony, en arriver à quelques éléments biographiques, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite du rock'n'roll déjà ?
Bien, écoute, ça a démarré très tôt, à l'adolescence, vers 13-14 ans. En fait, j'écoutais un petit peu les musiques qui étaient diffusées à l'époque, donc Jimi Hendrix, les Rolling Stones, Johnny Winter, Cream, etc. Mmh. Et puis également, quand Elvis a fait son retour en 1968-69, donc un pote m'a amené un disque live d'Elvis à Las Vegas, et là j'ai eu vraiment le déclic du rock'n'roll.
En 68, Tony, tu as 13-14 ans ?
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc à ce moment-là, effectivement, la révélation du rock, on va dire, allez, une petite dizaine d'années après la naissance, en quelque sorte, du rock'n'roll de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est Elvis Presley qui t'a entraîné directement là-dedans.
Oui, voilà, c'est ça.
Pourquoi Elvis ? Parce que c'est lui dont t'as écouté la première fois un album ?
Oui, parce que c'est un peu, c'est en même temps un hasard, et je pense que cet album pour moi a été magique, quoi. C'est déjà Elvis, entre guillemets, qui va démarrer les années 70. Donc, on n'est plus dans le son des années 50. On est dans le son déjà contemporain de mon époque. Il y a James Burton à la guitare, il y a Ronnie Tutt à la batterie. Donc, ça joue années 70. Ça ne joue plus années 50. Et c'est peut-être ça qui m'a accroché, parce que c'était en phase avec ce que j'écoutais par ailleurs musicalement.
Et tu écoutais quels autres groupes ? Les groupes de l'époque ?
Oui, c'est ça. Les Rolling Stones, notamment. Ouais. Johnny Winter. Hendrix, beaucoup, puis après Deep Purple, Led Zepp, tout ça, quoi.
Les Doors, Led Zeppelin.
Les Doors aussi, oui.
Tu sais qu'aujourd'hui, on célèbre, entre guillemets, le 50e anniversaire de la disparition de Jim Morrison, c'est aujourd'hui même.
Oui, j'ai vu ça, oui.
Toute une époque, voilà, effectivement, une époque qui continue à être ravivée, notamment grâce à toi, et puis d'autres revivalistes, j'ai envie de dire. Est-ce qu'on peut parler ensuite des années 70-80, il y a quand même des groupes comme ça qui, déjà, début... Fin 79, début 80, on sont revenus sur ce courant rock'n'roll des années 50. On a appelé ça le rockabilly à l'époque des années 50.
Oui, tout à fait. En fait, moi, en 77, en fait, je monte à Paris en 74. Ouais. Et en 77, je monte mon premier groupe, on va dire, rock'n'roll, qui s'est appelé les Rockin' Rebels. Mmh. Et donc, on a été en France un des groupes pionniers à jouer du rockabilly. Je dirais même pas à rejouer, parce qu'en fait, cette musique n'était pas jouée en France dans les années 60. Les groupes faisaient plutôt du rock twist, mais vraiment le côté rockabilly avec contrebasse, etc., c'était pas vraiment arrivé jusqu'en France. Donc, toute notre vague là de rockabilly fin 70, début 80 était un peu, quelque part, on amenait ça en France, quoi.
Le rockabilly français, j'ai envie de dire, a suivi un petit peu un mouvement initié peut-être d'abord par les Stray Cats. Je ne sais pas si tu es tout à fait d'accord avec ça.
Tout à fait. Mais même avant les Stray Cats, il y a eu les groupes anglais comme Chrissy Cavan, Flying Saucers, Matchbox, qui dès 75-16, eux jouaient vraiment du rockabilly. Et en fait, eux, ils ont été connus en fait avant les Stray Cats. Après, les Stray Cats arrivent en 81, et donc quand même quelques années après, et eux connaissent vraiment un succès grand public, parce que je pense qu'ils ont ils avaient un son plus contemporain, ils mélangeaient un petit peu de punk, ils étaient produits par Devin Moons, donc les Stray Cats ont vraiment du coup popularisé le rockabilly, une version moderne du rockabilly en fait au grand public.
Voilà. Alors tout ça, les Rockin' Rebels, c'était dans ta région. On va situer où tu es, Tony Marlowe, dans l'Est.
Alors non, moi à l'époque, à l'époque, en fait, moi, je suis originaire de Corse, mais à l'époque, donc, les Rockin' Rebels, on était sur Paris. C'était un groupe parisien, oui.
Comme ici, en Normandie, on avait les Alligators, par exemple.
Exactement. Ouais, ils faisaient partie de la vague, de la même vague que nous.
Tu as connu les Alligators, notamment, alors ?
Tout à fait. On a joué souvent avec eux. Et puis, Alain Chenevière est resté un ami depuis toutes ces années.
Même après son passage dans le groupe mythique Povo, hein, parce que voilà, ce sont des gens qui n'ont pas oublié leurs racines, évidemment. Voilà, j'ai envie de dire, toutes ces années 80 qui ont suivi, ça a vu également l'arrivée de ton de ta discographie en solo, c'est ça, ton groupe.
C'est ça. Mais disons que les Rocky Rebels, bon, on fait donc, on a la chance de faire en 81 justement la première partie des Stray Cats. On fait deux Olympias avec eux, plus toute la tournée française, une dizaine de dates. Mmh. Donc ça, c'est un super souvenir. En 84, on rencontre Aldo Martinez, qui était l'ancien bassiste des Chaussettes Noires, qui nous produit un disque, donc qui s'appelait Branche le Poste, et qui a connu quand même un succès. Avec ça, on a eu un succès radiophonique. On a un peu été diffusé sur toutes les radios, RTL, Europe, de l'époque et tout. Et donc, ça a fait ce qu'on appelait un petit tube, quoi. Et puis, après ça, bon, ben, le groupe s'est séparé vers 85. Et là, je démarre effectivement Tony Marlowe en solo.
Voilà, donc plus d'une trentaine d'années, plus d'une trentaine d'années de carrière solo. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Est-ce que tu continues à avoir le vent en poupe? Dans quels endroits tu te produis et est-ce que tu joues à l'étranger, par exemple?
Oui, bien sûr. Ben, en fait, je monte notamment une formation plus jump, rhythm and blues, années 40-50, quoi, influencée par Louis Jordan, Louis Primat, ou le côté rhythm and blues noir dansant. Mmh. Et avec ça, ben, je joue beaucoup dans les clubs de jazz sur Paris et dans toute la France. Et également un peu dans des festivals européens également.
Tu fais partie de ceux qui animent des endroits comme le Caveau de la Huchette, par exemple?
C'est ça, j'ai joué longtemps au Caveau de la Huchette, en effet. Le Slow Club, Caveau de la Huchette, Petit Journal. Il y avait beaucoup de clubs à l'époque pour jouer.
Tu penses que maintenant, l'offre, c'est un peu restreinte depuis le temps, depuis l'époque?
Beaucoup de clubs ont fermé. Il y avait, dans les années 80, il y avait une trentaine de clubs de jazz sur Paris. Aujourd'hui, il en reste trois, tu vois.
Ouais,
c'est donc voilà, hein, c'est malheureusement le constat est là, quoi, tu vois. C'est donc voilà. Puis ça touche. Enfin, la musique vivante a été quand même sur Paris et région a connu un coup de massue quand même. Assez important, quoi.
Voilà. On va revenir sur cet album et puis on va poursuivre avec justement la création de ce disque qui s'appelle First Ride. Je voudrais qu'on écoute un nouvel extrait puis on va parler de Jimi Hendrix. Ça s'appelle Vapeur Mauve. On se retrouve juste après, Tony. étiez prévenu, un très très rock'n'roll dans Sweet Home Chicago aujourd'hui, grâce à First Ride, l'album de Marlo Ryder. Toujours au téléphone avec Tony Marlo. Il est là,
oui.
Il est là, Tony.
On est là.
Merci d'être là pour ce 1113e Sweet Home Chicago. C'est la dernière émission de la saison. Et puis ensuite, ça sera un petit peu de vacances, normal. J'ai envie de dire, une question par rapport à ta carrière solo depuis allez, le milieu des années 80. Est-ce que tu as une idée, Tony, du nombre de musiciens avec qui tu as pu te produire?
C'est-à-dire qui ont joué avec moi?
Oui.
Dans mes diverses formations.
Exactement.
Eh ben, écoute, j'ai jamais fait le calcul, mais écoute, je pense qu'on doit être facilement, je dirais, entre 50 et 100. Allez.
Oh là là, entre 50 et 100 musiciens.
Incroyable. Oui, plus près même des, je dirais, dans les 70-80.
70 à 80 musiciens qui t'ont accompagné durant cette bonne trentaine d'années de carrière
oui,
solo.
Oui, oui, c'est ça. les décennies passent vite.
Mais exactement. Et y compris ceux qui t'accompagnent sur cet album. On peut parler respectivement du contrebassiste et du batteur. Amine Leroy, tout d'abord, il est choriste, contrebassiste. Ça fait longtemps que vous jouez ensemble?
Eh ben, écoute, ça, avec Amine, ça fait 4 ans.
Ouais. Et pourquoi une contrebasse, c'est vraiment indispensable dans une formation comme celle-là qui mêle le rock'n'roll, les réminiscences de Jimi Hendrix, le blues, etc. Il fallait absolument une contrebasse?
Non, il ne fallait pas absolument une contrebasse, mais je me suis dit que ça apporterait une touche d'originalité, parce que le blues rock, justement, à la Hendrix, Cream, Clapton, etc., se joue toujours avec une basse électrique. Et comme moi, je suis quelqu'un qui vient quand même du rock'n'roll, rockabilly, je me suis dit qu'on jouer du blues rock avec une contrebasse amènera une touche originale.
Ouais.
Donc c'est pour ça que, voilà, parce qu'avec Amine, il joue parallèlement à Marlo Ryder, il joue aussi dans mon trio rockabilly.
D'accord.
Voilà. Donc du coup, voilà, ça amène une originalité.
Et ça vous fait un point commun de plus, toi, Tony Marlo et Little Bob, parce que lui, il joue avec Bertrand Couloum à la contrebasse depuis pas mal de temps.
Little
Bob Blues Bastards. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Little Bob quand on a évoqué ces années 70, mais est-ce que ça a été quelqu'un que tu apprécié, que tu écoutais, que tu continues à entendre avec plaisir?
Tout à fait, bien sûr. Moi j'ai suivi Bob dès son premier disque, et puis avec les Rockin' Rebels notamment, mais même après, j'ai eu l'occasion de partager la scène avec lui, notamment à l'Hippodrome de Pantin en 79, il y avait les Little Bob, les Dogs, Michelin et les Rockin' Rebels.
Oh là là, ça fait rêver des plateaux
puis,
comme ça.
Et encore récemment, en 2018, on a partagé la scène ensemble au 112 à Terreville.
D'accord.
Donc dans l'est de la France, où là j'ai fait sa première partie, donc avec Bob. Donc on est en contact assez régulier, et puis voilà, on s'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup.
Est-ce que tu as pu écouter son dernier album qui s'appelle We Need Hope?
J'ai écouté des extraits, je ne l'ai pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Très bien. On évoque Amine Leroy, donc le contrebassiste de ton groupe, et également Fred Kolinski, batteur, percussionniste, choriste aussi. Ça fait longtemps que tu joues avec Fred aussi?
Alors avec Fred, on s'est connus il y a à peu près une vingtaine d'années. On a joué ensemble quand on a reformé les Rockin' Rebels fin 90, début 2000, et donc Fred a fait partie de la dernière formation des Rockin' Rebels. C'est comme ça qu'on s'est connus. Il a ensuite joué également avec moi dans une autre formation plus swing. Et puis on s'est retrouvés là, c'est pareil, il y a 4 ans, pratiquement en même temps qu'Amine. Pour le Tony Marlo Trio, et puis après pour Marlo Ryder.
Voilà, ce projet Marlo Ryder en trio avec Tony, toi-même, Amine et Fred, et puis également une jeune femme qui continue à t'inspirer, notamment qui chante dans Mutual Appreciation, ce qui fait les cœurs sur Hey Joe. Je parlais d'Alicia, Alicia F, Alicia Fiorucci. Oui. Tu es là, Alicia, au téléphone également?
Oui, je suis là, Marc.
Ça me fait bien plaisir parce qu'on s'était rencontrés à l'occasion d'un concert au Sous-Bois qui a déjà plus de 10 ans, on va dire.
Il y a plus de 10 ans, oui, c'était ça.
Et donc voilà, tu es en contact avec un certain Tony Marlo au quotidien depuis quelques temps maintenant, on va dire.
Oui, depuis 2017, on est ensemble.
Mutual Appreciation, c'est ça, hein.
Ouais.
Appréciation mutuelle. Du coup, artistiquement, vous êtes liés également, j'ai envie de dire.
On est liés à la ville comme à la scène. Et donc, du coup, on a mis un peu nos univers aussi en commun. Et puis, on a fait ce duo sur l'album Marlow Rider, First Ride, qui aussi célèbre un peu notre connexion, qu'elle soit charnelle ou mentale.
Et donc, ton univers à toi, uni à celui de Tony, qu'on a évoqué tout à l'heure, le rock'n'roll pour l'essentiel, ton univers à toi, c'est également le rock, mais sous d'autres facettes peut-être.
Oui, c'est plus rock punk, et on a monté un projet plus centré sur mes influences justement, qui s'appelle Alicia F. Mmh. Et on est en train de faire mon premier album. On a fait un premier 45 tours l'an dernier, qui est sorti en plein confinement et qui s'est vendu à 300 exemplaires. Il est sold out. Donc j'ai mis en place une plateforme Bandcamp pour que les gens puissent aussi soit l'écouter, soit même acheter les MP3 pour soutenir un peu aussi le projet. Et puis en mars de cette année, on a été en studio pour enregistrer mon premier album, dans lequel comportera 12 compos et aucune reprise.
12 compositions signées de ta main uniquement ou avec Tony?
Oui, signées de ma main. Ouais. C'est moi qui écris les textes et c'est Tony qui fait la musique.
Voilà, paroles et musique, Alicia et Tony en duo.
On se partage le boulot.
Avec d'autres musiciens derrière?
Oui, alors on retrouve Fred Kolinsky à la batterie, donc Fred qui est sur Tony Marlow Trio et sur Marlow Rider aussi. Et on a un bassiste, pour le coup, pas un contrebassiste, mais un bassiste qui s'appelle Fredo Lerme, qui a joué sur le nouvel album, le futur album, et aussi le 45 tours. Donc voilà.
Ben voilà, écoute Alicia, on va souhaiter bon vent bien sûr à cette formation, ça s'appelle Alicia F, tout simplement, en parallèle de la carrière de Marlow Rider. On va écouter un nouvel extrait de cet album First Ride avant d'en venir à d'autres aspects, notamment la pochette et puis l'inspiration de la pochette avec Tony. Alicia, on va t'écouter chanter également parce que tu partages le chant sur un titre, c'est ça hein?
Oui, sur Mutual Appreciation.
On écoute ça. Marlow Rider.
mutual appreciation.
Mutual Appreciation, Marlo Ryder, extrait de First Ride. Alicia, elle est là. Tony, Alicia F, Tony Marlo, dites-moi, ce titre, c'est très très chaud. Hein. Enfin, quand on parle anglais, on comprend tout. Et du coup, waouh, wow. Il n'y a pas que du double entendre là-dedans. C'est costaud.
Il y a même du premier entendre.
Ben oui, je crois. Hein. Je crois que c'est très clair.
On ne tourne pas trop autour du pot.
Exactement. Je crois qu'on ne peut pas dire mieux. Voilà. Qui est-ce qui a créé ces paroles? Qui a créé les paroles de cette chanson?
C'est moi. Je plaide coupable.
Ah non, attends. Non, mais je trouve ça excellent. En plus, le côté très, très rock'n'roll et en même temps, vraiment, j'ai envie de dire, au niveau de la prise de son, un petit peu tout fou, quoi. On y va à fond. Ça symbolise vraiment tout le reste de l'album. C'est très, très spontané ce que vous faites. Ça reste du rock'n'roll, essentiellement.
Tout à fait, malgré que le schéma musical est un peu un genre de shuffle.
C'est quand même du blues au départ, bien sûr.
Tu vois, voilà, c'est ça. Mais après, effectivement, on lui donne une touche quand même très, très rock'n'roll.
Ouais, ouais, ouais. Oui. Alors, on évoquait en filigrane tout à l'heure Jimi Hendrix. Alors, quelle était la part de Jimi Hendrix dans la création de cet album qui s'appelle First Ride?
Écoute, en fait, Jimi Hendrix a été vraiment une de mes influences majeures d'adolescent. Et puis je l'ai toujours vénéré au fil des décennies, même quand je faisais du rockabilly. Bon, j'ai toujours écouté Hendrix à côté. Et puis avec l'âge, on va dire, j'ai eu envie de retrouver un peu mes émois adolescents. Parce que moi au départ j'étais marré dans la musique comme batteur, j'étais pas guitariste ni chanteur, et dans mes premiers groupes de lycée forcément on essayait de rejouer un peu les titres du moment, dont ceux d'Hendrix, et je m'étais dit qu'un jour j'essaierais quand même de les faire, mais de les chanter, de les jouer à la guitare. Et puis un peu la nostalgie de l'adolescence, vu que là maintenant la soixantaine est entamée, donc on se penche un peu sur son passé. C'est un peu ça qui m'a motivé. D'une part, donc, de retrouver les émois adolescents, et puis d'autre part, bon, c'est un tel génie de la guitare, donc l'idée c'est de s'en inspirer et pas essayer de refaire,
parce bien sûr.
C'est quand même c'est unique, mais par contre c'est une source d'inspiration, notamment tout ce qui dégageait, le feeling qu'il mettait dans la façon de jouer, dans la façon d'improviser, la façon de faire parler la guitare comme si la guitare était une voix humaine. Tout ça m'a beaucoup inspiré, et puis quand même je me suis lancé à reprendre en les personnalisant, donc Purple's, Hey Joe, et sur la version vinyle il y a également Fire.
Très bien. Et donc la spontanéité, puis ça va jusqu'à la formation, hein, au trio, guitare, basse, batterie, tout simplement, le premier groupe de Jimi Hendrix sous son nom, le Experience.
Oui.
Quand tu as découvert l'album Are You Experience, j'imagine que c'était à sa sortie, vers 67, Electric Ladyland, sorti en 68, voilà, ces deux brûlots, en fait, de la deuxième partie des années 60, qui sont absolument séminaux, j'ai envie de dire, c'est des albums fondateurs, et puis je pense peut-être que tu vas pas me contredire pour dire que le rock'n'roll existait avant Jimi Hendrix et après Jimi Hendrix, c'est plus tout à fait la même chose, quand même.
Après lui, ça prend d'autres formes, hein, c'est sûr. Ce qui est fou, puisque tu parles de rock'n'roll, c'est que quand tu travailles vraiment un petit peu quand même le jeu d'Hendrix en détail et tout, tu te rends compte qu'il est aussi, il n'est pas inspiré que par le blues. Il est aussi très inspiré par le rock'n'roll, parce que dans sa jeunesse, lui, en fait, il jouait dans des groupes mixtes, il reprenait aussi des titres d'Elvis, de Dick O'Crane, de Richie Valens, et il faisait pas que du blues, et c'est ce mélange de tout ça qui a donné son style unique. Et comme moi, j'ai beaucoup travaillé, évidemment, tous les Chuck Berry, les Elvis, les Cochrane, tout ça. Et quand je me suis vraiment mis à décortiquer le jeu d'Hendrix, j'ai retrouvé déjà plein de plans que je connaissais, en fait, qu'il avait déjà lui-même malaxé. Et donc, en fait, tout ça, c'est un peu quand même une sorte de continuité. C'est le rock, c'est le rock and roll, quoi. C'est, voilà. Sans mettre d'étiquette ou trop de... de barrières et de cases.
Voilà. Tony Marleau, il y a des guides spirituels hein, d'adolescents que tu as déjà cités. On va citer tous ceux qui figurent sur la pochette de ce disque. Oui. On a évoqué bien sûr Jimi Hendrix. On peut parler de Cactus, Peter Green, Johnny Winter, tu l'as cité. Cream, bien sûr, avec Eric Clapton. Oui. Deep Purple, tu en as parlé. Et je suis tombé sur ce nom-là, MK2. Alors, vas-y, dis-moi qui
alors,
c'est.
Alors, bah, en fait, c'était...
J'avoue mon inculture là-dessus, tu vois.
En fait, c'est le nom entier, c'est Deep Purple Mark II.
J'avais pas vu qu'il n'y avait pas de virgule.
Voilà, c'est parce qu'en fait, on appelle Mark II la deuxième formation de Deep Purple, okay. Qui est la plus légendaire. C'est-à-dire, c'est la formation...
Live in Japan, quoi.
Voilà, qui enregistre Black Knight, ouais. Smoke on the Water, le Live in Japan, c'est la formation vraiment la plus marquante.
Très bien.
Celle qui m'a marqué en tout cas de Deep Purple. C'est pour ça que je vais rajouter Mark II, parce que Deep Purple a connu après d'autres moutures, mais qui m'ont moins touché, on va dire. Voilà.
Et puis qui continue à exister sous d'autres formes.
Oui, bien sûr. Après, c'est toujours ouais. Un groupe fantastique. Hein. Là, je parle juste de mon ressenti.
D'autres artistes que tu cites, Rory Gallagher, Paul Kossoff, donc du groupe Free, et puis Johnny Hallyday. Johnny Hallyday,
Oui, parce que Johnny, quand on était ado, on pouvait pas trop y échapper à l'époque. Mmh. Surtout, même après d'ailleurs. Hein. Mais voilà, Johnny, c'est vrai que j'ai découvert Hey Joe, en fait, par Johnny. J'ai découvert par Hendrix un petit peu après, quoi. Il a quand même été un passeur. Il a fait découvrir aux jeunes Français plein d'artistes dont il faisait des covers.
Ça, effectivement, on peut pas l'échapper, on peut pas lui enlever ça, effectivement. Il y a un autre nom qui m'a interpellé, et je crois que c'est l'une des personnes qu'adorait quelqu'un qu'on connaît en commun, Alicia, qui nous écoute. Tu connaissais Rod, hein, Rodolphe Lavergne, qui était animateur ici, qui faisait l'émission Tête dans le cul juste avant Sweet Home Chicago. Et lui aussi, il avait une vénération pour Marc Zermati, que tu cites ici, Tony, sur cet album.
Oui.
Quelle était la relation avec Marc ?
Eh bien, écoute, tout simplement que dès 77, en fait, j'ai connu Marc à l'Open Market en 76 à peu près, où j'allais acheter des disques de temps en temps, et Marc m'avait dit, il avait donc monté le label Sky Dog,
voilà.
Et il m'avait dit, moi, ça m'intéresse de sortir un groupe rockabilly sur Sky Dog, donc, comme je l'avais dit que j'étais en train de monter les Rockin' Rebels, il m'a dit, dès que vous avez quelque chose à me faire écouter, viens me voir. Et donc, c'est Marc qui a sorti notre premier 45 tours, qui s'appelle Western, et il est sorti sur Sky Dog avec Marc. Et en fait, après, on s'est jamais vraiment perdu de vue. On a sorti d'autres albums avec lui. Et encore, jusqu'à la fin, un des derniers albums de Tony Marleau, qui s'appelle Knockout, c'est le dernier disque paru sur Sky Dog, en fait.
Très bien. Eh bien écoute, voilà la boucle est bouclée.
Alicia pourra prendre la suite.
Alors vas-y, Alicia.
Grâce à Marc, on s'est connus avec Tony, parce que moi, comme tu le sais bien, Marc, je faisais aussi de la radio en Lorraine, et j'étais montée le voir pour l'interviewer sur le festival punk de Mont-de-Marsan, et aussi le label Skydog. Et un soir, il a invité Tony chez lui. Moi, j'étais montée sur Paris pour l'interviewer. Et puis, on a passé la soirée ensemble. Et Tony était là. Et c'est grâce à Marc qu'on s'est connus. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui a quand même une grande part affective, qu'elle soit même humaine que musicale. Et c'est quelqu'un à qui on rend hommage à 200%. Quoi.
J'ai envie de dire, quand on te connaît, quand on connaît un petit peu Tony aussi, on peut se douter que le côté musical, côté affectif, vous pouvez pas forcément faire la part des choses. Tout va ensemble finalement.
Oui, c'est un package.
C'est un package, exactement. Voilà. Et ce sera presque le mot de la fin. Il nous reste à écouter un titre pour terminer cette première heure de Sweet Home Chicago. Moi, je proposerais bien Sur la route du temps. Et puis, c'est vrai que j'avais calé aussi un autre morceau extrait de cet album. C'était Jimmy Freedom qu'on écoutera un petit peu plus tard. Il y a pas de souci. Tony, est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de te poser, à laquelle tu aimerais quand même répondre ?
Simplement ce que avec cet album, si c'était possible, arriver à jouer un petit peu dans certains festivals de blues, les programmateurs ne sont pas trop, je dirais, entre guillemets puristes, on va dire, mais s'ils peuvent écouter un peu du blues rock comme ça, légèrement rock'n'roll, ça me plairait bien, quoi. Bon. Voilà, de pouvoir aussi prêcher, je dirais, la bonne parole dans ce circuit-là.
Voilà, reprendre la route des concerts, avec route, voilà. Y compris l'adhésion des programmateurs de festivals de blues. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à cette formation qui s'appelle Marlowe Rider. L'album s'appelle First Ride. Une dernière question en guise de clin d'œil sur la pochette. On ne voit pas Alicia, sauf sa jambe gauche, je crois.
C'est bien ça. C'est bien ma jambe.
Il y en a qui il semblerait que ce soit sa jambe, oui. Mais bon, pas sûr, à 100%.
Bon, ben, l'enquête est à mener, alors. Voilà. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, tous les deux, toutes ces années qui vous attendent ensemble. Et puis, bien sûr, excellente carrière à Marlowe Rider, avec tout plein de concerts, parce que c'est en train de reprendre les concerts maintenant.
Oui,
ça reprend. C'est pas gagné, mais ça reprend doucement. Voilà. C'est, en tout cas, on est content que ça reprenne. Et, ben, en tout cas, merci à toi de l'invitation.
Merci à vous deux.
Ça nous fait très plaisir.
Ouais. À très bientôt.
À très bientôt.
Au revoir.
Bye bye.